Cette émission vous est proposée avec la luxuriante participation de Michael Pereira, Maël, Grégory Thor, Stan Ribaud, Niels89, Jean-Philippe Emek, François Vanov, Alexandre Ménélé, Damien Charpentier, David Kerel, Thomas Levet, Sebi, Pascal Germain et Nathan Giroux. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 environ, toutes les deux semaines, toute l'actu tech, internet et gadgets. Vous avez dans un petit podcast facile à consommer et je l'espère agréable à consommer, tout ce que vous devez savoir d'important sur ce qui s'est passé dans le monde lui-même si important de la tech. Je suis Patrick Béja et je suis avec deux professionnels de la technologie, à savoir Cédric Bonnet et LB Stéphane, non, attends, alors Stéphane Le Boisselier, c'est ça que ça veut
dire. Ouais, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis un professionnel.
Mais oui, complètement. Vous allez bien, messieurs?
Ouais, ça va.
Mais écoutez, on a laissé tomber Skype qui nous faisait des sons un petit peu bizarres et on utilise pour la première fois une nouvelle technologie innovante qui s'appelle Discord pour enregistrer. Donc je le signale juste au cas où il y a un truc qui merde.
Au cas où le son soit pas aussi bon que d'habitude.
C'est ça. Ouais, mais moi je l'ai utilisé pour un podcast où on était nombreux il y a une semaine et ça s'est très très bien passé. Hein. Voilà, ouais, une fois que les petits réglages micro qu'on a fait là sur la sensibilité sont faits, normalement après ça se passe. Ça, c'est bien.
Bon, bah écoutez, j'espère que ça ira bien parce qu'en plus, le programme est assez intéressant aujourd'hui. On va vous parler évidemment de cette histoire de voiture meurtrière. C'est un peu Christine façon... si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Hein. Bon, faut pas trop plaisanter parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a perdu sa vie. On va en parler, c'est donc la première mort avec une voiture autonome, ce qui échauffe un petit peu les passions dans les deux manières, on va en parler. Il y a aussi Apple contre Spotify, on va vous expliquer ce qui se passe là-dedans et des impressions sur iOS 10 que vous utilisez tous les deux pas mal, si j'ai bien compris. Bon, donc tant qu'on y est, on va en parler un tout petit peu. Et puis on aura des informations sur Microsoft et Windows 10, sur le parcours d'Android et Android N. On va avoir Nintendo et Pokémon Go, AMD et ses nouvelles cartes graphiques, etc., etc. Il y a plein de choses dont on va parler. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer avec cette histoire de voiture autonome qui a été, j'allais dire victime d'un accident, qui a peut-être provoqué un accident mortel sur la route. C'est une Tesla qui est équipée donc de son logiciel autopilote, qui est donc la version commerciale la plus avancée d'une voiture presque autonome qui existe sur le marché. Elle est en vente, enfin en fonction depuis des mois. Il n'y a pas eu d'accident sérieux jusqu'ici et malheureusement, il y a quelques jours, il y a une semaine environ, un automobiliste qui l'utilisait beaucoup, qui était connu dans la communauté, qui utilisait beaucoup cet autopilote, a donc été victime d'un accident dans lequel, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un gros camion. Il était sur une autoroute sur laquelle on peut rentrer sans rampe d'accès. Immense, et donc il était sur l'autoroute et il y a un camion qui s'est déporté sur son côté et le camion était très clair et visiblement, d'après les premiers éléments qu'on a, l'autopilote n'aurait pas vu le camion parce qu'il était trop clair sur le ciel qui était clair lui aussi. Et donc, il ne l'aurait pas vu. La Tesla n'a pas modifié son cheminement, n'a pas modifié sa trajectoire. Merci beaucoup, Cédric. Et ils se sont percutés. La Tesla est en fait passée visiblement sous le camion et le conducteur a malheureusement perdu sa vie. Quand je disais ça échauffe les passions, c'est un petit peu le cas. On a eu on va dire trois types de réactions. Les réactions neutres, ils se disent bon bah on sait pas trop. Et puis des deux autres extrêmes, des réactions de gens qui ont dit ah bah voilà les voitures automatiques, les voitures autonomes sont dangereuses, c'en est la preuve, et d'autres qui disent mais non, mais le type il avait pas les mains sur le volant, c'est clairement dit dans les instructions, il faut garder les mains sur le volant, enfin il faut être très conscient de ce qui se passe parce que le logiciel est en bêta, etc. Donc ça ne veut rien dire, c'est de la faute du conducteur en fait. Évidemment, comme toujours, la vérité est sans doute un petit peu au milieu, j'allais dire un petit peu ailleurs. Mais avant de vous donner mon opinion sur la chose, peut-être vous demander à vous ce que vous en pensez de cette histoire. Je sais que la technologie des voitures autonomes est une chose qui vous
ah ben c'est au centre de Geeking Beats toutes les semaines.
Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'on en parle à peu près toutes les semaines et maintenant ils ont un bingo des sujets qu'on aborde toutes les semaines dans l'émission et le premier qui a le bingo a gagné. Donc ouais, en fait ce qu'on peut proposer peut-être, c'est de demander à Elon Musk de nous envoyer une Tesla chacun.
Voilà, pour tester.
Pour qu'on teste vraiment et qu'on les innocente, non? Qu'est-ce que t'en penses, Cédric?
Bah écoute, ouais, je suis d'accord.
On va envoyer un mail, mais d'ici là, comme on n'aura sans doute pas la réponse, ça va prendre sans doute une heure et demie, deux heures avant qu'on ait la réponse d'Elon, le temps qu'on le réveille, tout ça. Ouais. Mais en attendant, vous en pensez quoi alors?
Alors, déjà, bon, pour revenir sur les faits, Il y a deux choses. Il y a le fait que le camion soit clair, qui peut être une explication. Il y a aussi le fait que, a priori, en rentrant, l'espèce de gros semi-remorque là avait sa remorque à quasiment 90 degrés, tu vois, par rapport à la route. Forcément, il fait une manœuvre, hein, il rentre sur le truc. Et puis aussi, il était haut. La remorque était très haute. Et la Tesla est pas équipée d'un lidar. C'est-à-dire un espèce de radar qui scanne l'environnement limite à 360 degrés. Voilà, dans tous les sens. Elle n'est pas équipée de ça. Donc, elle navigue surtout et essentiellement à la vue, puisque en fait, ça utilise le principe des caméras, entre autres. Hein.
Ouais, avec les lignes blanches sur la route.
Voilà, ainsi que les radars, les fameux radars de stationnement, qui là sont un peu plus boostés. Il y a un radar aussi dans le pare-choc. Mais il est assez limité. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à ce que l'obstacle soit au-dessus du capot de la voiture, en fait, tu vois. Il est capable de s'arrêter s'il y a un piéton parce qu'il a les pieds sur terre et donc il le détecte. Mais si la remorque est un peu élevée et que sur la trajectoire, en fait, bah il considère qu'il peut passer tout droit parce qu'il voit pas les roues, par exemple, tu vois, ou ce genre de choses, ben forcément il voit pas le camion. Alors il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que si la voiture était équipée d'un lidar, elle aurait pu éviter l'accident ou pas. Alors en fait, on ne saura pas, hein, il faudrait reproduire le truc, mais dans les faits, peut-être que ça aurait pu régler ce problème-là. Il est aussi précisé, comme tu disais dans la notice, qu'il faut garder les mains sur le volant. En fait, si jamais la Tesla détecte qu'au bout de, je sais plus combien c'est, il y a un seuil hein, quand même, mais au bout d'un certain temps, bah, vous êtes obligé de reposer vos mains sur le volant pendant au moins 15 secondes, sinon la voiture en fait désactive l'autopilote et se met à ralentir toute seule, à freiner en fait. Donc, bon... Dans les faits, en plus, ce gars-là était connu effectivement dans la communauté pour faire l'éloge d'ailleurs de l'autopilote qui lui avait sauvé la vie en avril dernier. Il a failli avoir un crash justement avec un camion aussi. Et donc l'autopilote l'a sauvé. Il avait tweeté, Elon Musk d'ailleurs avait retweeté son message et avait dit vous voyez, c'est génial et tout ça. Et il se trouve que ce même gars, trois mois plus tard, se retrouve impliqué dans le premier accident mortel. Alors, il rentre dans l'histoire, hein, quand même. C'est la première fois qu'un, entre guillemets, un homme est tué par une machine avec un peu d'intelligence. On pense aux lois d'Asimov et tout ça.
C'est
de la SF, hein. C'est en extrapolant. C'est pour les fans de SF, tu vois. Mais on est dans... C'est rigolo parce que la semaine d'avant l'accident, on se posait la question, je sais pas si tu en avais parlé toi Patrick, mais on se posait la question dans le monde tech du pilote auto qui était est-ce que quand un groupe d'enfants traverse la route, la voiture doit provoquer un accident mortel pour le pilote en fonçant contre le mur à gauche et sauver 10 vies? Ou est-ce que la voiture doit en priorité sauver le pilote et tuer ses 10 enfants? Enfin, ouais, les
ça c'est une question qu'on a évoquée même depuis très longtemps dans l'émission. On en a parlé plusieurs fois.
Voilà. Et c'est rigolo parce que ça revenait sur le tapis juste avant. Et là, en fait, on est quand même encore loin de ces questions-là, puisque on est vraiment uniquement sur une techno de pilote auto qui est utilisée uniquement par la Tesla. Si c'était une BMW qui a aussi maintenant des pilotes auto ou même une Volvo, on ne sait pas comment ça serait passé. Peut-être que l'accident aurait été évité, mais là, j'ai envie de dire, c'est presque la faute à pas de chance. Et puis, le problème, c'est que quand tu utilises iOS en version bêta, tu risques pas ta vie. Ouais. Quand tu utilises une voiture lancée à 100 km/h sur une autoroute, tu risques ta vie. Donc,
c'est un petit peu ça le gros bémol de cette histoire. C'est un point que je voulais vous évoquer aussi. D'une part, je crois que tu as raison, on n'est pas du tout aux questions de morale que tu posais à l'instant et qui sont revenues plusieurs fois.
Non, techniquement, on n'est pas encore prêt.
Voilà. On n'y est pas du tout. Mais par contre, dans notre malchance collective, on a eu un petit peu de chance parce que imagine que la voiture ait eu un problème. Alors, c'est pas un problème de fonctionnement, encore une fois, hein, mais imagine qu'il y ait eu un problème et que ça a été une autre victime et pas le conducteur, que ça a été un piéton ou quelque chose comme ça. Là, on aurait clairement eu un beaucoup plus gros scandale et une question morale même qui aurait été beaucoup plus compliquée et peut-être même que ça arrivera dans les mois ou dans les années à venir parce que l'utilisation de ce produit aurait provoqué la mort de quelqu'un qui n'avait aucune décision sur l'utilisation du produit. Ça aurait été beaucoup plus grave.
Juste un truc quand même.
Ouais.
Là, ce type d'accident, on est plus du niveau des accidents avec les régulateurs de vitesse, c'est-à-dire t'as enclenché ton régulateur à 130. Ouais, l'affaire de la Velsatis qui avait défoncé la barrière d'autoroute parce que soi-disant il n'arrivait pas à désactiver le régulateur de vitesse. On est plus dans un accident de ce type-là, c'est-à-dire, bon, la différence, c'est que là, l'autopilote est capable de freiner la voiture et de tourner. Mais c'est la seule différence, finalement. Demain, tu vas avoir un accident d'un mec avec un régulateur de vitesse qui s'est ou endormi sur l'autoroute ou qui a pas eu le réflexe de le désactiver et qui a foncé dans le camion devant lui, tu vois. Et on ne dira pas, ah, c'est la technologie. Enfin, aujourd'hui, on le dit plus. À l'époque, quand le régulateur de vitesse est sorti, tout le monde criait dessus en disant, c'est grave, c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens qui font de l'autoroute conçoivent même plus de prendre l'autoroute sans un régulateur de vitesse.
Ouais.
Malheureusement, ce sera pas le dernier accident mortel. C'est-à-dire, dès qu'on a une nouvelle techno comme ça.
C'est le premier, mais voilà. Ça sera pas le dernier, oui.
Ça sera pas le dernier, c'est certain quoi. Et après, quand on a inventé l'avion, il y a eu des accidents aussi. Enfin, après il y a quand même une déformation, c'est-à-dire que c'est pas une voiture autonome. C'est une assistance à la conduite. Hein, c'est-à-dire que c'est capable de changer de voie, etc. Mais c'est toi qui mets le clignotant. Si tu mets pas le clignotant, la voiture change pas de voie toute seule, etc., etc. Donc elle détecte les obstacles, elle est capable de te prévenir. C'est une assistance. Ça le fait pas à ta place.
Et ouais,
le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens, y compris des journalistes, qui ont commencé à essayer le système en ville, etc. Alors que c'est bien dit dans la notice, main sur le volant, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'autoroute. Pour pouvoir à la limite se détendre un peu sur l'autoroute quand tu sens un peu la fatigue, tu vois, tout ça. Enfin, c'est vraiment fait pour t'assister. Et c'est pas encore du pilotage automatique, donc effectivement il y a des cas de figure qui ne peuvent pas être pris en compte et il faut rester vigilant, garder vos mains sur le volant et regarder toujours dans vos rétros.
Bon alors, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable là, pardon, mais c'est bien gentil de dire oui, il faut garder les mains sur le volant, c'est pas un vrai pilote automatique, c'est juste une assistance à la conduite, machin. Il n'empêche, comme on l'évoquait à l'instant, c'est un logiciel en bêta et comme le disait Cédric, quand tu utilises iOS 10 bêta, ça va, au pire ton téléphone crash. Là, il y a vraiment, enfin, un véhicule de plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, qui est lancé à même 40 ou 50 ou 60 ou kilomètres heure. Ça c'est presque une arme quoi. Ça peut faire très très mal. Donc est-ce que, et là je me retourne vers toi Stéphane qui gère des bêta tout le temps, mais en l'occurrence tu parlais de ce cas précis, est-ce que c'est vraiment responsable de se dire on met un logiciel en bêta en fonction dans un produit commercial. Enfin, c'est pas Gmail quoi qui est resté en bêta pendant 10 ans. Là, c'est une voiture. Est-ce que c'est
responsable? On est d'accord. Après, on te dit que c'est une bêta, donc c'est
tu le fais pas en fait.
Voilà, tu uses de ton libre arbitre pour l'utiliser
oui,
ou
là,
pas.
Mais encore une fois, si ça se plante et que tu meurs, ben on va dire ok, c'était toi qui avais le choix. Mais si ça se plante et que tu rentres dans le groupe de 10 enfants dont on parlait tout à l'heure, c'est plus discutable, non?
Ben là, le pilote est responsable parce que dans le cas présent, quand tu actives l'option autopilote chez Tesla et tout ça, t'acceptes d'assumer les conséquences. Il y a une espèce de décharge, si tu veux, qui dit que c'est toi qui es maître de. Tu dois rester tout le temps maître du véhicule. Et donc
c'est la solution morale, en fait, c'est effectivement de se dire que c'est le pilote qui est responsable.
Voilà, c'est ça. C'est comme quand t'achètes un micro-ondes et qu'on te dit faut pas sécher ton chat dedans, quoi. Tu vois.
Exactement.
C'est manuel, tu vois. On est vraiment à ce niveau-là. Et là, en plus, c'est en bêta. Donc, en gros, on te dit, bah, si tu veux l'option, tu peux l'avoir, mais elle n'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, ta voiture, elle est complète. Elle marche quand même si tu n'as pas l'autopilote. Si tu veux tester l'autopilote, tu peux, mais attention. Et c'est bien précisé. C'est comme quand tu allumes ton GPS dans ta voiture et qu'on te dit, attention, les indications du GPS peuvent différencier de la réalité. Veuillez respecter toujours le code de la route. Gros, la vraie vie prévaut sur les indications du GPS. Mmh. Ça y est maintenant, ça, parce que les papis et mamies qui prenaient les autoroutes à contresens parce que le GPS leur disait de faire demi-tour.
Oh, les papis, bah, mamies, c'est quoi cette discrimination par là?
Non,
c'est
ça, parce que la plus récente, c'était ça, c'était...
Bien sûr. Non, mais je te taquine.
Mais après, ils ont quand même tué une famille, hein. Donc, eux, avec 89 ans, c'est pas trop grave, entre guillemets, hein. Ils sont pas morts, en plus, mais ils ont quand même décimé une famille.
Ouais.
Donc, si tu veux, on en est au même niveau. Simplement, là, le mec était maître de son véhicule, c'est-à-dire que la Tesla, dans le cas des papis, il était maître de son véhicule, le GPS lui a dit de faire demi-tour, il a fait demi-tour comme un abruti. Sur la Tesla, bah, c'est pareil, si la Tesla décide de faire demi-tour sur l'autoroute, toi tu dois reprendre le volant, quoi. Enfin, tu dis ça.
À partir du moment où tu actionnes le volant, la Tesla, le pilote automatique, il s'enlève, quoi. Enfin,
ah oui, dès que tu forces, dès que tu appuies sur n'importe quel bouton, ça s'arrête.
C'est pas elle qui a la main et qui te dit non, dis donc, tu m'as demandé de conduire.
Si il regardait pas Harry Potter en conduisant. Non, ça c'est rumeur, on sait pas si c'est vrai ou pas.
Non, mais c'est oui, effectivement, il y a toute la rumeur qui court sur ce qu'il était en train de faire en conduisant. Est-ce qu'il aurait
pas
dû voir
le truc ? Enfin, il était certainement pas attentif parce que ou alors si lui n'a pas vu
le
camion
non plus,
c'est que
oui, c'est qu'il y avait sans doute un autre problème qui aurait peut-être non, c'est clair, mais disons que quand même on sait pas ce qui s'est passé. Je crois que la question pour moi, il y a effectivement peut-être deux conclusions, c'est que d'une part, pour la question de la bêta, ouais, il y en a 12 des conclusions, mais pour la question de la bêta, c'est vrai que s'ils ont suffisamment testé le truc en entre guillemets laboratoire sur circuit privé, etc., au bout d'un moment, pour faire évoluer la technologie, si on estime qu'elle est suffisamment sûre pour pas que ta voiture rentre dans le premier poteau qui traîne et qu'elle est prête à être testée à plus grande échelle, bah c'est comme ça qu'on peut la tester. On peut pas la tester autrement. Alors, faut se méfier des statistiques. J'ai vu des statistiques qui disaient oui, sur tant de kilomètres parcourus, il y a machin. Et comme on nous l'a signalé dans l'émission que je fais en anglais d'Elite Tech News Show, faut se méfier de ce genre de statistiques parce que il y a eu un accident, donc c'est arrivé. On n'a pas assez de données, quoi. Données aussi limites, c'est un petit peu comme le Concorde qui était l'avion le plus sûr du monde jusqu'à son premier accident. Et tout à coup, quand il y a eu un accident, il était le moins sûr du monde parce qu'il avait fait tellement peu de kilomètres que bon. Donc voilà.
C'est après, t'avais eu un gars qui avait eu un truc avec une Model X aussi. Puis au final, ils ont regardé les logs et c'est le mec qui avait fait n'importe quoi. Hein.
Oui, mais donc pareil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on ne sait pas. Et je suis sûr que même si lui, il a fait un petit peu n'importe quoi, il y aura sûrement un moment. Tu disais, il n'y a pas de LiDAR. Ça va sans doute les aider à se dire, ok, il faut qu'on ajoute tel type de capteur pour améliorer.
Et en plus, je pense que l'appellation bêta, elle est plus sur le fait que justement, c'est pas une vraie voiture autonome. Peut-être que la finalité, c'est que la voiture t'amène d'un point A à un point B en full autonome. Et dans ce cas-là, elle sera dans sa, entre guillemets, version 1, c'est-à-dire plus la bêta. Mais aujourd'hui, c'est vraiment qu'une assistance, quoi. Et c'est pas activé partout.
Bon, bah écoutez, on vous laissera vous faire votre propre opinion. Je crois que d'une manière
générale...
Et puis
après, on en a beaucoup parlé pour deux raisons. Parce que c'est, entre guillemets, effectivement, le premier accident lié à un autopilote. Et donc, ça fait des choux gras, des détracteurs et des défenseurs. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est normal, c'est nouveau. Et voilà, quand on sera à notre 10e ou 20e accident, on s'en foutra que ça soit l'autopilote ou pas l'autopilote, tu vois. Et c'est aussi parce que c'est Tesla et que Tesla a fait un gros coup. avec sa Model 3, a rempli son carnet de commandes et tout ça, et que c'est comme pour tout, ça fait du bien de taper sur celui qui est devant. Regarde ce que prend Apple, les sauts de caca quand ils annoncent iOS 10 qui copie tout ce que fait Android et tout ça. C'est toujours pareil, en fait. Et ça fait parler, ça agite notre petit monde, ça permet de faire des podcasts, on est bien contents. Mais dans les faits, franchement, si ça avait été une Peugeot, on n'en aurait pas parlé, quoi. Enfin, j'exagère, mais
ouais,
on aurait parlé deux minutes et puis voilà, quoi.
Oui, ça fait plus de bruit parce que justement Tesla a fait tellement de foin,
ouais,
avec son
et puis
autopilote.
L'arrogance aussi d'Elon Musk, tu vois, sur ça, qui en rajoute sans arrêt. Bon, bah, quand on te prend, on trouve un moyen de te taper un peu sur les doigts, ben on le fait. Et bon, bah, voilà, c'est le cas, quoi.
Bon, bah écoutez, comme je le disais, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de sensationnalisme là-dessus des médias. J'avais peur qu'il y en ait beaucoup plus. Il y a eu quelques gros titres, mais
non,
pas énormément.
En France, heureusement, heureusement qu'il y avait la Coupe d'Europe, quoi. Enfin, l'Euro, ouais. Parce que sinon.
Ouais, bon.
Ils en ont parlé.
Passons à, justement, tu évoquais Apple. Il y a eu une controverse entre Apple et Spotify.
Magnifique.
Qui se sont renvoyés un petit peu la balle. En fait, Spotify a envoyé une lettre ouverte aux autorités de régulation de la concurrence disant Apple ne veut pas accepter de valider notre app. C'est une concurrence déloyale parce qu'ils veulent favoriser leur application. Bien sûr, Spotify, application et service de streaming de musique. Et donc, ils disaient, c'est pour favoriser le service d'Apple. Ils vont empêcher le nôtre d'être sur le store. Et c'est totalement anti-concurrentiel. Alors, bien sûr, comme on s'en doute souvent, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, la question que pose encore une fois cette controverse, c'est la question de la... si on va au fond des choses, je vais pas tout détailler, mais vraiment, le gros problème, c'est qu'Apple veut que les gens qui utilisent leur store, les apps sur leur store, leur payent 30% de tout ce qui est dépensé dans les apps et avec les apps. C'est vraiment le cœur du problème. Parce qu'en fait, ce qu'essayait de faire Spotify, c'est d'avoir des références et puis des renvois et puis donnez-nous votre email. Comme ça, on vous donne un petit truc. Et le petit truc, c'était qu'il fallait aller sur le web pour s'abonner à Spotify, de manière à ce que Apple, en fait, il n'est de manière à ce que Spotify n'ait pas à donner les 30% à Apple pour abonnement par l'App Store. Et Apple
sans
dit,
achat in-app, en fait, ouais.
Voilà, il voulait retirer l'achat in-app, mais évidemment, si tu retires simplement l'achat in-app, comme l'a fait par exemple Amazon avec Comixology ou d'autres apps,
Kindle aussi.
Ou Kindle par exemple, eh ben, tu peux tout simplement pas acheter, tu peux rien acheter dans l'app. Il faut forcément passer par le web. Et on peut pas, dans l'app, te renvoyer vers le site web pour acheter le truc. Ça serait trop simple. Donc, ce que faisait Spotify, c'était genre, OK, on met pas d'achat in-app, mais on dit aux gens, envoyez-nous votre mail. Et par mail, on vous envoie l'astuce pour aller acheter sur le web. Évidemment, c'est un petit peu détourner le truc. Et pour moi, ça, le fait de demander le mail... C'est pas fair play, ça rentre pas dans les règles du jeu, parce que les règles du jeu que tout le monde accepte et que tout le monde, bah, ils ont pas le choix, c'est Apple, c'est le store d'Apple. Il faut respecter cette histoire de 30%. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre sur votre site web le même service au prix que vous voulez. Donc vous pouvez le mettre 30% plus cher, 30% moins cher, comme vous voulez, sur votre site web ou ailleurs. Mais si ça apparaît chez Apple, il faut que ça soit le prix qui inclura, enfin Apple prendra 30%. Et donc, au-delà de ça, la grande question que ça pose pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, la grande question que ça pose, c'est est-ce que ces 30% sont justifiés ou pas? Et est-ce que on est même d'accord pour qu'Apple prélève un montant? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, bah oui, quand même, c'est leur store, c'est leur plateforme, etc. Oui, qu'ils prennent une certaine somme, ça devrait être accepté. Mais combien, ensuite? Est-ce que 30%, c'est trop? C'est, en fait, à mon sens, ça, le cœur de tout ce problème qui revient régulièrement par différentes apps, différents services, différents développeurs. Tout le cœur du problème, c'est est-ce que 30%, c'est pas trop? Et alors, d'une part, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que c'est ça la vraie question? Et d'autre part, est-ce que si c'est la vraie question, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que 30% c'est trop ou pas? Peut-être Stéphane, qui est vraiment encore plus développeur que Cédric.
Bah, 30%, c'est le jeu qu'on a accepté depuis le début, hein. C'est-à-dire que après, c'est eux qui font, en gros, la promo de ton app, qui héberge ton app, qui gère toute la bande passante, qui, gère tout,
oui, mais
tout ce qui est système de rating.
On a accepté depuis le début, ça veut pas dire qu'on doit l'accepter jusqu'à la fin des temps. Ça se trouve, il y aurait des bonnes raisons de le changer, mais,
Ouais, je sais pas. Moi, oui, j'ai trouvé ça élevé quand j'ai commencé à développer. Et puis au final, il y a pas tellement de développeurs qui s'en plaignent. Ceux qui s'en plaignent, effectivement, c'est plutôt des services tiers, comme Spotify ou comme d'autres, comme Netflix, etc. Où effectivement, ils essayent de détourner le truc en disant, non, nous les 30%, ça nous met dans le rouge. Donc il faut que les gens aillent se loguer chez nous, prennent l'abonnement et après ça l'active automatiquement sur l'app mobile. Alors je connais pas de développeur qui trouve que 30% c'est trop. J'en ai même qui, une fois, moi, j'avais eu le malheur de le dire, ils ont dit oui, mais tu te rends pas compte, machin. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça va, les gars, vous inquiétez pas, les gars. Mais bon. Après, peut-être qu'il y aurait effectivement des arrangements à trouver avec ce genre de société. Et c'est vrai qu'en général, Apple, de ce côté-là, n'est pas très, conciliant.
Bah, le problème, c'est que s'ils font, il y a qui va arriver la possibilité de réduire à, je crois, 15% si quelqu'un est abonné à votre service par le service d'Apple pendant plus d'un an. Si je ne m'abuse, ça arrive avec iOS 10, ouais. Mais ils peuvent pas s'arranger. Enfin, ils pourraient, mais ça serait injuste de s'arranger avec certains et pas avec les autres. Là, pour le coup, ce qu'ils disent Apple, c'est que tout le monde est au même tarif. C'est justement pas préférentiel parce que tout le monde a exactement les mêmes règles. Donc, je pense pas qu'ils voudraient s'arranger.
Oui, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, s'ils baissent, effectivement, ils baisseront pour tout le monde, quoi. Mais je les vois pas baisser aujourd'hui, d'autant que le coût est de plus en plus élevé. Il y a de plus en plus d'app, je sais pas.
Après la stratégie, moi en tout cas, si j'étais Apple, ce que je ferais, c'est pour les applis one shot ou les achats in-app, je resterais sur du 30, mais lorsqu'on parle d'abonnement, le coût des 15%, mais au bout d'un an, ça je trouve ça un peu mesquin, j'aurais préféré que ce soit 15% tout de suite, et en plus ça faciliterait, je pense, le passage à l'abonnement sur l'application. Enfin, tu vois, les développeurs aujourd'hui, ils ont le choix, hein, comme modèle économique. T'as ou le gratuit avec la pub, ou le gratuit avec de l'achat in-app, ou l'appli payante, ou l'appli payante achat in-app. En gros, c'est ça les modèles. Et t'as l'abonnement, évidemment, mais l'abonnement, Apple se sert beaucoup dessus. Et d'ailleurs,
30% comme le reste, quoi.
Ouais, leur keynote justement est orienté sur le fait que utiliser le principe de l'abonnement même annuel, c'est-à-dire par exemple, je crois que c'est WhatsApp qui fait ça, si je dis pas de bêtises, où c'est gratuit la première année, après c'est 99 centimes je crois par an.
Un truc du genre. Ouais, mais je crois qu'ils ont laissé gratuit tout court en fait.
Ouais, ils ont laissé gratuit tout court. Bon, mais Apple en fait cherche du revenu récurrent, tu vois. C'est con, mais quand t'as acheté une fois Angry Birds, tu l'as acheté une fois, quoi. Or si t'avais, alors évidemment, l'abonnement avec Angry Birds, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, mais je pense, tu vois, justement, à des services à la Spotify ou des services de VOD, puisqu'il y a Molotov, par exemple, aujourd'hui qui est lancé, mais je crois qu'on en parle après. Tu passes par un abonnement in-app à 9€ par mois ou 4€ par mois, je pense que beaucoup de développeurs passeraient sur ce modèle économique-là si justement la part d'Apple était moins élevée, parce qu'après tout le récurrent, finalement, pourquoi Apple prendrait 30% en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que autant sur le one shot je peux comprendre la démarche, sur le récurrent Apple ne fait pas la promo du contenu à l'intérieur de l'application.
Sur l'achat in-app, mais Apple, ils ont rien à voir là-dedans.
Je crois qu'il y a un truc aussi qu'on perd de vue dans le raisonnement. Alors ensuite, encore une fois, chacun peut décider s'ils ont raison ou tort. Mais l'autre raison pour laquelle ils prennent de l'argent, c'est pas seulement qu'ils fournissent l'App Store et l'hébergement des apps et les downloads. C'est tout simplement le fait qu'ils aient créé cet écosystème qui non seulement est sain et fonctionne beaucoup, et il y a des gens qui adorent, mais où en plus les gens sont plus prêts que sur Android par exemple à dépenser de l'argent. On sait on sait bien que malgré une part de marché particulièrement réduite par rapport à Android, eh bien le gros des bénéfices des développeurs d'app aujourd'hui se fait toujours sur les appareils iOS. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça aussi qu'ils disent bah oui, nous on a une sorte de d'écosystème qui est composé pour différentes raisons de gens qui sont prêts à dépenser de l'argent. Donc il y a la taxe Apple comme partout ailleurs. Je veux dire, Android a créé son écosystème sur le l'ouverture et sur, je crois qu'ils prennent pas 30%, je vais pas dire de bêtises, mais ils prennent moins Android sur le leur Play Store. Donc enfin, dans tous les cas, le truc, c'est que ils ont créé ce système de nulle part. C'est comme si on disait...
Oui, mais en gros, si tu veux accéder à mes clients, ça te coûte
30%. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, la conversation est tout à fait valide. Est-ce que ça doit vraiment coûter 30%? Mais personne ne dirait, bah non, ils doivent rien prendre du tout. Donc c'est vraiment une question de d'équilibre. Et là où c'est vraiment intéressant ce que tu disais, Cédric, c'est qu'au final... Le truc pour lequel on se dit vraiment 30% c'est abusé, c'est peut-être l'abonnement sur la durée. Et ils sont en train d'y venir avec cette histoire de 15% après la première année. Ce qui là encore, on pourrait discuter, on pourrait dire un an c'est trop long. Mais c'est quand même, ça va dans cette direction. Donc bon.
Parce que tu vois, les gens comme Spotify, Netflix ou même Molotov et d'autres ont des... négocie ses droits en fait de diffusion. Et d'ailleurs, on voit bien que Spotify n'est pas forcément à l'équilibre d'ailleurs. Mais se dire putain, en plus si
tu veux dire avec les ayants droit, avec les créateurs de contenu.
Exactement. Si tu te dis bon, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait pas, le truc où faudrait pas arriver, c'est que des sociétés comme Spotify ou autres se retrouvent à dire bon bah désolé, mais je peux plus continuer chez Apple parce que je perds 30% de l'argent que je gagne et du coup je peux pas ou rémunérer correctement les artistes, mais ça, j'ai un vieux doute, ou tout simplement rendre le service pérenne chez Apple. Ou alors, il faut que j'augmente le tarif pour les clients Apple, vu qu'ils sont prêts à payer plus. Bah, tant qu'à faire, j'augmente de 30%.
Bah, ensuite, tout ça, oui. Bon, bref. Ouais, non, mais tout ça est possible. Hein, mais c'est tout, ça fait partie de toute cette négociation, de cette discussion qu'il y a entre Apple et Spotify et tous ces services, et qui n'a pas encore de résolution, en tout cas, aujourd'hui, quoi. Mais...
Alors Spotify n'a pas disparu du store, hein. C'est la nouvelle
non,
version,
c'est la nouvelle
qu'ils
version.
Pas, voilà, qu'ils n'ont pas validée.
C'est ça.
Et ça nous arrive très souvent en tant que dev, hein. C'est-à-dire que tu as une version qui marche très bien, tu publies une nouvelle version et puis t'as pas forcément fait attention, mais tiens, Apple a changé des trucs dans les conditions générales. Voilà. Et tu te prends ton app, tu vois, elle est rejetée, je comprends pas. Et moi la dernière fois par exemple, c'est parce que en fait, je régénérais systématiquement des données qui n'étaient pas dans un fichier, dans un répertoire temporaire, et du coup, c'était stocké sur iCloud. Et du coup, ils rejetaient l'app parce qu'ils disaient, bah, attention, ça va faire trop de données sur iCloud. Mais là, c'est plutôt bien.
De validation.
Mais là, par contre, c'est plutôt bien, tu vois.
Mmh. Oui, non, bah, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'immense majorité du processus de validation est bénéfique pour l'écosystème. Hein, mais bon. Voilà, on a établi un petit panorama de cette dispute entre Apple et Spotify.
On vous laissera ensuite dans les commentaires, hein.
Faire votre avis parce qu'il y a des gens qui. Mais vraiment, c'est pas une question de est-ce que Spotify a raison ou Apple a raison sur cette question spécifique. Je crois que vraiment le cœur du problème, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est cette question du pourcentage. Combien est-ce qu'ils devraient prendre et dans quelles conditions. Donc, rapidement, vous me disiez avant d'enregistrer l'émission que vous utilisiez iOS 10 et que vous aviez des choses à dire sur la nouvelle version donc de l'OS qui sera disponible pour le grand public en version finale cet automne et qui est déjà disponible en version bêta, donc à n'installer que sur des matériels secondaires. Quand même, hein, faites attention.
Bêta public. Oui, bêta public, moi je suis en bêta, je suis en bêta sur mon principal et même sur mon Apple Watch. Tu vois.
Et ça marche bien?
Alors sur l'Apple Watch, j'ai rien à dire. Moi j'ai un 6 Plus, comme Cédric. J'ai quelques ralentissements. Alors la bêta 2 est nettement plus stable que la bêta 1, où la bêta 1, je pétais des câbles tellement ça avait ralenti le système et la moindre recherche, c'était une catastrophe. Voilà, après, moi, enfin. Je trouve le système agréable, mais j'ai rien de révolutionnaire à raconter, quoi.
Ah ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi j'utilise la bêta publique, donc qui est l'équivalent de la bêta 2 que toi tu utilises. J'ai utilisé sur mon iPad et sur mon téléphone. Je trouve quand même que la première fois, tu as pas la sensation d'utiliser le même système d'exploitation. C'est la première fois que ça me le fait avec une mise à jour d'iOS. Bah, le principe, pour déverrouiller, ça se passe pas du tout de la même façon, déjà. Parce qu'on swipe plus, il faut appuyer sur le bouton.
Ouais, t'es obligé d'appuyer sur le bouton maintenant.
Ouais, donc si ton bouton home est en panne, c'est raté, hein. Ouais. Je dis tout de suite.
C'est-à-dire qu'il capte l'empreinte au moment de l'appui maintenant et non plus quand t'essayes de, enfin, juste quand tu poses ton doigt, quoi.
Mais le principe des widgets direct dès la page d'accueil en swipant vers la gauche et tout ça, enfin, je trouve que le fonctionnement a complètement changé. Le control center qui était en bas aussi a complètement changé puisque la musique est séparée du reste. Et en plus, utilisant HomeKit tous les jours, j'ai maintenant carrément un nouvel onglet HomeKit. Franchement, ça change la vie, hein. Les gens, si vous faites de la domotique avec HomeKit, vous allez voir qu'à iOS 10, c'est le jour et la nuit. Et j'ai vraiment cette sensation d'utiliser un... Ça fait longtemps que j'ai pas eu la sensation d'avoir un nouvel OS. Je crois que la dernière fois, c'était iOS 7, je crois, ou 8. Quand ils sont passés au flat.
Voilà, quand ils sont passés au flat design.
C'était le 7, ouais.
Ouais, le 7. Ben, là, je retrouve, alors, pas la page d'accueil, hein, qui a pas changé finalement, mais le fait qu'il y ait une nouvelle police d'écriture, le fait que les menus t'interagis plus tout à fait de la même façon avec.
C'est super cosmétique tout ça, non? C'est du,
c'est
de la peinture.
Non, attends. Non, pas que, parce que franchement, rien que le fait de déverrouiller le principe du, alors toi, t'as un 6S, non, Patrick, je crois, en plus.
Oui.
Donc en plus, dès que tu vas lever ton téléphone, l'écran va s'allumer, hein. Ça va te faire bizarre. Mais je sais pas comment expliquer ça. J'ai vraiment la sensation de pas l'utiliser de la même façon que j'utilisais avant mon.
Non, parce que si tu regardes bien, même les notifications en fait maintenant.
Ah mais elles ont rien à voir.
Les notifications, tu as des sous-menus. Donc tu peux par exemple aller afficher la notification ou mettre directement un j'aime dessus sans avoir à repasser par l'application. Donc là, il y a des raccourcis qui sont quand même assez pratiques. Il faut avouer, le centre de notification, je préfère celui-là. Effectivement, le centre de contrôle est assez sympa. Moi, les widgets, j'adore. Le problème, c'est que chez moi, ils mettent 3 plombes à se charger, quoi.
Ah non, mais bon, ça va assez vite.
Et là, tu vois, par exemple, le widget news, il est vide. Le météo, il est vide. Le avenir, il est vide, alors que normalement, j'ai des trucs.
Ah non, enfin, moi, j'ai la météo, j'ai la bêta, batterie, hein. J'ai même l'endroit où, j'ai même l'endroit où garer ma voiture.
Sera sorti, je pense qu'il sera, donc, quand il sera sorti, tes widgets vont se remplir quand même. C'est un
oui,
petit peu...
oui, oui. Je pense qu'il sera stable. Après, il y a eu des gros soucis sur l'application Facebook. Alors moi, en bêta 1, elle voulait carrément pas se lancer.
Non, mais parlons pas des problèmes qu'il y a dans la bêta parce que c'est des problèmes de bêta, c'est normal.
Moi, d'utiliser, d'avoir un truc un peu différent, tu vois, la musique a complètement changé.
Ouais.
Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas la révolution évidemment, mais je trouve que au-delà des les animes d'écran ont changé et tout ça, et ça donne l'impression de quelque chose de nouveau.
OK.
Et entre écoute. iOS 8 et 9, j'avais pas eu cette sensation, tu vois.
Non,
c'est
sûr,
vrai que tu l'as beaucoup plus avec la 10. C'est vrai que les folders les folders s'affichent de façon différente, enfin l'appli domotique du coup qui est intégrée, elle est chouette.
Ça prend une place prépondérante par contre, hein. Je trouve que ça prend la partie l'application s'appelle domicile, mais on le retrouve un peu partout dans l'OS. C'est-à-dire que je pense qu'on passe du simple petit hobby à quelque chose dans lequel Apple croit vraiment, tu vois. Le fait que ça soit aussi présent dans l'OS, dans le control center et tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens que ça fait partie d'une nouvelle stratégie, je pense, pour eux.
Bon. Bah, écoute,
voilà. Il y a vraiment, je suis assez convaincu en tout cas de ce que je vois, bien que toutes les fonctions soient pas encore disponibles.
Non, tu n'es pas là. Ouais.
Je trouve que c'est quand même un bon cru, quoi.
D'accord. Bon, donc impression générale, hein, rien de super super précis, mais plutôt positif sur.
Ouais. Très bien. Une sensation d'avoir quelque chose de nouveau, c'est vraiment ça.
Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous utilise Android et a utilisé Android N ou pas? Android Nougat.
Non. Alors
non.
N.
Non. Allô.
Pas utilisé Android N.
D'accord.
Moi non
Stéphane
plus.
Stéphane non plus. Ah bon, bah non. Écoutez.
J'ai plus de device en fait là, Android.
Pour Android. Bon ouais. Bah la prochaine fois on essaiera d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu Android aussi. Et ben justement on va parler Android nous également, mais un petit peu moins des nouveautés de Nougat et plus de ce qui se passe chez Google et ailleurs. Mais avant ça, quand même, un petit remerciement aux gens qui sont venus laisser des commentaires sur iTunes, notamment Svan Espen de Belgique qui nous dit l'incontournable de l'actualité tech, Soit Franc de France qui nous dit que l'émission est très bonne, et Anne59 qui dit que c'est un podcast d'intérêt public, et ça, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que elle, je sais pas si c'est il ou elle, dit que Patrick avec ce podcast nous instruit sur la tech et l'impact que ça peut avoir sur nos vies et nous divertit avec des podcasteurs qui ne manquent pas d'humour. C'est magnifique parce que c'est exactement les deux choses que j'essaye de faire avec cette émission: instruire parce que c'est important et divertir parce que c'est important aussi. Donc merci beaucoup à toi Anne, et merci à tous ceux qui sont venus laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Merci à vous.
Merci amis de la galéjade.
De la quoi?
Galéjade.
Galéjade.
C'est quoi la galéjade?
Ah mais c'est voilà, tu vois les mecs du Nord.
Ah, c'est ça. De la blague, de l'humour.
Ah d'accord, très bien, oui. Non mais c'est bien, moi en plus là je suis vraiment au Nord, hein, donc je suis très loin de la galéjade.
T'es parti dans le Grand Nord là. Ouais, là on dit plus chocolatine.
On dit même plus pain au chocolat ni chocolatine.
Non, c'est Klurkesmurft.
Voilà.
C'est plutôt ça. Donc Google Android N a son nom officiel. Ce n'est malheureusement, je sais que ça va attrister.
On a voté, hein.
Bah oui, c'est ça. Il y avait un espoir quand même assez solide, hein, que Android N soit appelé Note Patrick, mais malheureusement, ça sera Android Nougat. J'ai quand même encore une chance avec la lettre P qui devrait arriver bientôt, hein, normalement. Et on dit, c'est que c'est des noms de trucs de desserts, de trucs très doux, très sucrés, tu vois. Et c'est tout moi, c'est tout moi. Je suis un truc hyper doux. Je suis doux comme une sorte de cajoline, moi. C'est.
Ouais, donc, mais marshmallow, c'était déjà fait, donc.
Oui. Tu dis ça pour Cédric ou non?
Merci.
Donc Android sera Nougat pour sa prochaine version. On a aussi des rumeurs selon lesquelles Google serait en train de préparer son propre smartphone. Vous savez que jusqu'à maintenant, ils avaient leur modèle officiel entre guillemets de smartphone qui étaient les modèles Nexus, et ces modèles étaient en fait fabriqués par d'autres fabricants. Là, Google ferait un petit peu comme le fait Apple, c'est-à-dire designerait son propre smartphone et le ferait fabriquer par un fabricant externe, mais designé par Google. Et il semblerait qu'il soit aussi en train de travailler sur deux montres Android Wear différentes, avec l'intégration de Google Assistant.
Donc, moi, je pense que ça serait pas un mal, parce que je trouve que du coup, il y aurait une certaine homogénéité dans la qualité des téléphones qui sortent.
Ouais.
Les Nexus aujourd'hui, moi j'ai eu, c'était quoi le rouge que j'ai eu? C'est un 5, je crois.
Oui, c'est ça.
J'ai été hyper déçu, quoi.
Bah, c'était un téléphone qui était quand même à un prix très accessible, hein, pour sa qualité.
Oui.
Donc,
Oui. Mais il a c'est un téléphone qui vieillissait très très mal, et on a Timo dans nos contacts qui en a eu un, et il a eu le même ressenti que moi, quoi. C'est-à-dire au quotidien, c'était un téléphone qui était pas déplaisant à utiliser, mais c'est un téléphone qui a très très mal vieilli. Aussi bien au niveau de l'OS qu'au niveau physique, quoi, en fait.
Physique,
tu vois.
Ah, d'accord. Tu veux dire qu'il a pris des coups et ça se voyait?
Même sans prendre des coups,
ça avait tendance à se décolorer, ça avait tendance à, enfin, voilà.
Disons que c'est sûr que moi, en tout cas, quand je regarde Android, je me dis, c'est un petit peu, alors il y a les Samsung en haut de gamme qui font
un petit peu. Est-ce que c'est encore de l'Android?
Mais ça fait partie du problème, c'est qu'il y a effectivement, moi quand je pense à Android, je voudrais l'expérience Google classique, tu vois, pure.
Voilà.
Et c'est vrai que.
Et à jour.
Et à jour en plus, oui.
Et à jour, ouais.
Et c'est vrai que les Nexus proposent ce type d'expérience, mais je me dis, il pourrait être encore meilleur si c'est Google qui les concevait à la base. Parce que finalement, les Nexus, c'est souvent des versions un petit peu revues de matériel existant. Ça a été le cas. Donc, plutôt une bonne chose.
Les tarifs avaient sacrément augmenté, hein, à partir du 6.
Ouais.
À partir du 6, la qualité aussi, d'ailleurs, avait augmenté aussi avec, forcément. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée de la part de Google de créer un truc, et pour une fois pas un truc en marque grise ou, tu vois, ou marque blanche, genre le Nexus 6 c'était un Motorola déguisé, tu vois. Donc ça c'est un truc qui pourrait me donner envie de repasser sur Android, tu vois.
Ouais.
Le fait que Google ait son propre smartphone, et pas un truc fait par un et avec et surtout
un autre constructeur.
Ouais, et parce que ce que je veux moi c'est les mises à jour de l'OS, que ce soit pour la sécurité mais aussi j'aime bien avoir les dernières fonctionnalités et me dire si je dois acheter un Samsung Galaxy S7 qui est très très bien, c'est un très très bon téléphone, et me dire OK, j'aurai la prochaine mise à jour et après c'est fini, ça me plaît pas quoi.
Ouais, bah c'est un petit peu
c'est un peu comme quand t'achètes une Android TV quoi.
C'est ça.
Bon, en tout cas, Dell a visiblement eu des petits soucis avec sa ligne de tablettes Android puisqu'il l'arrête. Ils ne vont plus vendre de tablettes Android et ils vont se concentrer parce qu'ils disent que le marché est sursaturé.
Ouais, mais ça c'est clair.
Pour les tablettes Android, ils vont se concentrer surtout sur visiblement des tablettes Microsoft, possiblement des tablettes Microsoft Windows 10. Peut-être une belle opportunité pour Microsoft de renforcer encore sa présence sur le marché des mobiles, puisque Dell, évidemment, est une marque qui compte dans ce domaine. Alors, ils avaient déjà des produits, ils offraient déjà des produits comme ça, mais là, ils vont renforcer encore les choses. Une petite nouvelle en passant. Et Microsoft, donc, a annoncé la date de sortie de son édition anniversaire, enfin, de sa mise à jour anniversaire pour Windows 10. Ça sera le 2 août. Et il y a déjà 350 millions d'appareils sous Windows 10.
Combien ont été forcés au passage?
Oui, comme la dame qui a réussi à obtenir 10 000 dollars parce que, son Windows 10 avait été forcé, c'était clairement un petit peu limite la manière dont il faisait les choses. Combien ont été forcés ? À vrai dire, c'est une question qui est tout à fait légitime, et je sais que ma réponse va être va faire pousser des cris à certains auditeurs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés mis à jour sous Windows 10 alors qu'ils voulaient pas forcément. Mais à mon sens, c'est un peu un moindre mal par rapport à l'idée que on est dans quelques années, 5, 10, 20 ans, bon, peut-être pas 20 ans, mais 5, 10 ans,
des
centaines de millions de PC qui sont encore sous Windows 7 ou Windows 8 et qui plombent l'ensemble de l'écosystème. Pour moi, à moins qu'il y ait une raison très spécifique de ne pas vouloir mettre à jour sous Windows 10, et très clairement, il peut y en avoir, je dis pas qu'il y en a pas, mais il peut y en avoir, mais à moins d'en avoir une, je pense que c'est pas la peine de continuer à tergiverser. À un moment, il faudra le faire, et surtout jusqu'à la mise à jour anniversaire, ou je sais plus, jusqu'à fin juillet, jusqu'au 27 juillet peut-être, c'est gratuit pour passer à Windows 10, après ça deviendra payant. Donc oui, ça va peut-être être un petit peu douloureux au moment de le faire, mais ça sera moins douloureux que quand en plus il faudra payer et que dans 2 ou 3 ans, vous vous rendrez compte que il faudra le faire de toute façon parce que les systèmes... d'une manière générale, on ne va pas relancer le grand débat, mais c'est toujours mieux d'être à la dernière version de l'OS si c'est possible.
De toute façon, pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux. Et puis dans cette version, n'oublions pas que pour nous qui sommes un chouille geek et informaticien sur les bords, il y a quand même le bash Linux qui est intégré dedans. Et moi, ça, je peux te dire que je l'attends avec impatience parce que c'est quelque chose qu'on a sur le Mac. Et j'attends avec impatience de pouvoir gérer des choses avec ça sur le PC.
Bon, ça, c'est un petit peu pour les développeurs, quoi. Les utilisateurs qui peuvent se plaindre des mises à jour forcées, je pense qu'ils s'en foutent un peu, tu vois, de bash, mais
ça c'est certain. Mais bon, voilà, je prêche pour ma paroisse, clairement, j'attends ça avec impatience.
Cédric, pardon.
Non, mais je peux comprendre que des gens veuillent pas upgrader pour changer leurs habitudes. Imagine ceux qui sont encore sous Windows 7 et qui ont pas connu les tuiles de Windows 8 et Windows 8.1.
Ça fait bizarre. Ça fait un peu.
Ça fait un peu bizarre. Donc le changement cosmétique. Et assez costaud là pour le coup.
C'est alors par contre,
iOS
je préfère
iOS 10 quoi.
Mais non, parce que moi je préfère passer de Windows 7 à Windows 10.
Oui,
que
à la limite,
Windows 8
plus...
parce que oui, le passage est parce que tu n'as pas justement ce bureau où il y a que des tuiles.
Ouais, enfin, les tuiles sont présentes dans le menu démarrer et c'est assez perturbant.
Oui, mais c'est quand même beaucoup plus light que quand t'es arrivé, t'avais plus de bureau vraiment et puis tu disais attends mais.
Le problème ne se pose plus, il y a plus de Windows 8 donc.
Voilà.
Oui. Mais je peux comprendre donc les gens qui hésitent, mais encore une fois l'OS est bon, donc je vois pas trop ce qu'on peut reprocher en tout cas en termes de fonctionnement au quotidien, à Windows 10. Ça, pour moi, c'est... Bah, c'est
Je pense que les principales raisons, en dehors de la question de on aime ou pas Windows et ils nous forcent ou pas à passer sous Windows 10 et c'est des vrais méchants, des vilains, bon, ça, c'est une autre question qui peut être débattue, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Des logiciels qui tournent sous Windows, ta version de Windows, et qui ne tourneront pas sous Windows 10 et dont tu as absolument besoin pour travailler ou pour faire quelque chose, ça, effectivement, bah, ça peut se comprendre.
Ouais, Internet Explorer 6, quoi, mais quoi d'autre?
Non, non, il y a des logiciels spécialisés, tu sais, des trucs professionnels, des trucs qui sont qui fonctionnent en mode compatibilité déjà sous Windows 7 et que
Il y a toujours un mode compatibilité sous Windows 10.
Oui, mais c'est pas dit. Il y a des logiciels qui fonctionnent sous 7 qui fonctionnent pas sous 10. Ça peut arriver. C'est clairement. Et pour moi, ça c'est une raison. Bah oui, qu'est-ce que tu vas faire si tu dois payer 15 000 euros pour ou plus 50 000 euros pour faire redévelopper une suite logicielle spécifique à ton activité machin. Bah non, t'as pas envie et ça je peux le comprendre. Il y a et sur le principe, oui, on peut dire j'ai juste pas envie de passer. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Mais l'autre raison, c'est peut-être des gens qui sont pas familiers de l'informatique. On peut penser à tout de suite les parents ou les oncles ou les grands-parents nous viennent à l'esprit. Et t'as pas envie de leur imposer de réapprendre un OS et des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux codes graphiques et tout ça. Je peux comprendre aussi, effectivement. Mais bon, voilà, il y a des raisons, bien sûr, mais je crois qu'au final, après le petit moment difficile, s'il est difficile pour la plupart des gens...
Après, tu vois, moi, j'ai bien fait comprendre à mes parents et beaux-parents que l'informatique, c'était un outil qui évoluait et que bah, s'ils voulaient vraiment s'y mettre, il allait falloir... accepter ça, quoi.
Mais ok, alors là, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Il y a aucune raison. Bah oui, j'essaye. Mais il y a aucune raison de vouloir s'imposer ça. Tu dis l'informatique, c'est un truc qui évolue. Oui, il y a des trucs qui sont obligatoirement qui vont. Tu
mais
vas obligé
à
t'acceptes faire évoluer.
Les règles.
Non, t'es pas obligé. Je suis désolé. Bah... Tu peux prendre ton PC sous Windows 7. Il va encore fonctionner quelques années. Il fonctionne très bien tel qu'il est. Tes logiciels fonctionnent. Nous, on aime l'informatique, mais il y a des gens qui ont d'autres choses à faire, qui se passionnent pour d'autres choses et qui ont pas forcément envie d'investir quelques dizaines d'heures pour apprendre un nouvel OS. Leur ordinateur fonctionne, ils vont sur leur Yahoo Mail ou sur leur Caramel et ils sont très contents. Aucune raison d'aller s'emmerder à upgrader sous Windows 10.
Ouais,
bon, écoute. Moi, je suis...
Ouais, mais après, quand l'antivirus ou le machin qu'ils ont installé tournera plus que sous Windows 10...
Bah c'est le gros problème. Oui, il y a encore...
Parce que c'est aussi l'inverse, tu vois. Il y a des softs qui effectivement tournent sous Windows 7 et pas sous Windows 10, mais déjà, tu vois, les softs du store, si par exemple demain ils avaient l'habitude de, je sais pas moi, d'utiliser une application qui maintenant devient une application universelle et du coup n'est plus mise
et
à jour.
Quand
sous
ça
Windows
sera
7,
le cas, ils trouveront une autre solution ou ils passeront à ce moment. Et puis on dit oui, la sécurité, faut avoir la dernière version. Windows 7 est encore géré par les mises à jour de sécurité de Windows de Microsoft pendant très longtemps. Donc voilà, ça va dans les deux sens aussi. Donc écoutez.
Tout à fait.
Bon, passons à une autre question, mais il n'empêche que pour moi, il y a très peu de raisons de ne pas passer à Windows 10, mais voilà, on vous en a donné quelques-unes.
Tu es l'avocat du diable, quoi.
Voilà. Oui et non.
Il faut bien.
Oui et non. Moi, je peux comprendre. Ah, il y a les enfants de Stéphane qui sont visiblement pas très contents.
Il y a mon fils qui perd à FIFA, il est en train de rager, là. Voilà.
C'est ça.
Bon, écoute, ça sera toujours moins terrible qu'hier contre le Portugal.
C'est les Portugais qui gagnent.
Ouais,
spoil lui la fin de la saison.
Je regarde pas beaucoup de matchs de foot, mais celui-là il m'a fait un peu mal, je vous avoue, parce que moi j'ai trouvé que, enfin, franchement, c'était un petit peu, ils jouaient un petit peu Craddock, quoi, les Portugais. Hein.
Moi je jouais Overwatch, donc ça allait.
Ouais. Moi je regarde, enfin, je suis plutôt rugbyman, tu le sais, quoi. Mais j'ai regardé un peu. Franchement, la France a plutôt bien joué, c'est vrai. Par rapport au match d'avant, ils avaient beaucoup moins de réussite. Tu vois, là où quand ils tirent, ils font un tir, boum, ça passe comme par hasard entre les jambes du gardien. Bah là, ça voulait pas. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Et après, c'est vrai que les Portugais l'ont joué pas très cool, quoi.
Ouais, vous rappelez quand le rendez-vous sport est fini, hein.
Non, mais juste, tu vois, c'est une fois tous les 10 ans, tu vois, ça m'arrive. Et c'est vrai que là, autant les Allemands, ils avaient bien joué, s'ils avaient gagné, ça m'aurait pas gêné, tu vois, ils avaient super bien joué. Autant les Portugais, bon, ils ont bien joué, évidemment, à ce niveau, tout le monde joue super bien, c'est même pas la question, mais Il n'empêche, on prend autant de cartons jeux qu'on peut. Tu sentais qu'il y avait des trucs, c'était hyper volontaire, cette main, c'était dommage. Enfin, bref.
C'est surtout que la main, c'est le portugais qui l'a fait, hein, c'est pas le français.
C'est ça, exactement.
Prend un carton jaune pour une faute qu'il n'a pas commise.
C'est ça. Là... Mais à la limite, ça, c'était pas volontaire. Mais il y a eu des trucs où tu disais, putain, là, c'est quand même un petit peu Craddock, quoi. Mais enfin bon, bref.
Un carton jaune pour une faute qu'il n'a pas commise, ça me rappelle, c'est un début de série des années 90, tu vois. Il est poursuivi pour une faute qu'il n'a pas commise.
C'est l'agence touriste.
Il a tué sa femme.
Non, c'est le rebelle.
Sa femme a été assassinée, mais tu vois, ouais, c'est vraiment ça, quoi.
Bon, parlons un petit peu de Pokémon. Tiens, il y a les actions de Nintendo qui ont décollé comme c'est pas possible, 22% cette dernière semaine après le lancement de Pokémon Go, qui est le jeu en réalité augmentée. Toi, je sais que tu aimais beaucoup Ingress, Cédric.
Ouais.
Pokémon Go, en fait, c'est une sorte d'Ingress à la Pokémon. Bon, il est pas disponible en Europe, donc peut-être que vous l'avez
pas.
Ouais,
enfin, bon, nous on en a parlé dans Geeking vendredi dernier, puisque Jeff a récupéré l'APK et a été marché pendant des kilomètres pour
essayer de trouver des Pokémon.
Ouais, tu sais que j'ai vu fonctionner, j'ai vu
tu sais que visiblement il y a des malwares. En fait, gaffe, si vous récupérez l'APK, il y a une version de l'APK qui est plein de malwares si vous l'utilisez sur Android. Donc faites gaffe. Mais
Faudra le dire à la femme de Léo Laporte, hein, parce que visiblement elle a l'air méga fan, quoi.
D'accord.
Ah ouais.
Ouais.
Donc bon, bah, écoute, ça a l'air sympa comme ça. Moi, je t'avoue que je suis pas fan de Pokémon.
Ouais, moi non plus, c'est mon problème, c'est pas ma génération. Et... voilà. Ouais.
Bah, moi mais non plus. En tout cas, je pense que Timothée, par exemple, de Angeeking, qui attend ça avec impatience, Hugues, etc.
Hugues aussi,
Bah, en tout cas, ils sont pas les seuls. Il y a plus de Pokémon installés aux US que des Tinder. Donc, voilà. Le nombre
d'apps.
Donc,
plutôt que de les attraper toutes, ils préfèrent tous les attraper.
AMD a annoncé sa nouvelle carte graphique pour environ $200, $200 et plus, qui fonctionne très bien pour la réalité virtuelle en résolution classique et même en résolution un petit peu plus élevée. Donc, si vous cherchez à vous équiper, peut-être qu'il faut aller regarder du côté de la RX 480, sachant que Nvidia va rétorquer avec sa GTX 1060. On parlait de la GTX 1070 et 1080. C'est ça. Donc elle arrive et les prix et les performances seront sans doute à peu près comparables. Donc attendez qu'elle soit sortie et dans les mains des testeurs pour prendre votre décision si vous voulez faire une upgrade.
Je pense qu'il y aura pas photo quand même.
Après, enfin après avec les soft Nvidia qui tournent maintenant sur le PC, qui t'optimisent les jeux automatiquement, le suivi des drivers qui est quand même hyper hyper régulier. Moi j'aimais beaucoup ATI, hein, je fais pas, enfin j'ai eu beaucoup d'ATI alors dans le passé, il y a une douzaine d'années. Mais là aujourd'hui, je pense que Nvidia surtout enfin là avec la 1060 ça
Non, le truc intéressant de la RX à la limite, c'est plutôt qu'elle va sans doute équiper comme elle consomme très très peu, elle risque d'équiper les nouveaux iMac ou les
c'est plus ça qui est intéressant,
voilà, qui ont besoin de vraiment basse consommation. Après la GTX 1060 elle consomme encore moins que la RX 480 avec des perfs qui sont a priori équivalentes ou supérieures.
Et elle est annoncée compatible VR aussi ou pas elle ?
Oui, elle est quoi. En fait, c'est la VR pour tous, en gros, la façon dont ils communiquent Nvidia dessus.
Okay.
La RX, c'est surtout que les drivers sont présents dans Sierra. Donc ça signifie que sans doute des MacBook ou des iMac risquent de la voir intégrée. Sans augmenter vraiment le prix, ça permettrait d'avoir des performances graphiques un peu supérieures aux 760M ou ce genre de truc qui était intégré dans certains iMac et qui était pas qui franchement était pas performant du tout et qui consommait plus qu'une RX 480, tu vois. Donc c'est moi la RX 480, je la vois plus comme une bonne nouvelle pour l'écosystème Apple.
Ah ouais, on va avoir Overwatch sur Mac comme ça.
Voilà, ça j'y crois pas. Hein. Ça j'y crois.
Non. Mais tu fais si avec Windows, moi c'est ce que je fais, hein. Mais ma carte graphique, tu vois, qui est une Nvidia, est un peu à la ramasse sur mon iMac.
Oui, c'est clair.
Moi j'aimerais RX 480 dedans, ça serait cool, quoi.
C'est vrai. Moi j'aimerais bien voir une option carte graphique individuelle externe. Non, pas externe, mais carte graphique comment on dit, discrete, dédiée, voilà, j'y arrive, sur les MacBook Pro. Sur les MacBook Pro 13 pouces.
Mais le RX 480 pourrait vraiment faire l'affaire.
Une version mobile de ce truc. Bon, peut-être. On verra à l'automne.
Mais voilà, on verra bien.
Ici, on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de contenu en réalité virtuelle. Eh bien, visiblement, NBC, pour les Jeux Olympiques, créera 85 heures de contenu en réalité virtuelle, mais pour les devices Samsung. Donc, si vous avez un appareil qui rentre dans le Gear VR, vous aurez peut-être les Jeux Olympiques en réalité virtuelle. Ça serait pas mal pour voir un petit peu ce que ça donne.
Ça peut être sympa, oui.
Ouais, moi, je serais curieux de voir effectivement ce que ça donne.
Je sais pas si, vu que vous avez regardé le match, moi, j'ai vu passer une photo du mec qui pose la coupe sur un espèce de piédestal sur le bord du terrain. Et les joueurs ensuite rentrent et passent à côté de la coupe. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous le piédestal qui était en plexi, il y avait une caméra 360.
Ah, donc peut-être que quelque part on pouvait voir
des gens qui utilisaient la VR pour la Coupe d'Europe, là, enfin l'Euro pardon, parce que Coupe d'Europe c'est pas la même chose, pour l'Euro, du coup étaient positionnés sous la coupe et pouvaient voir passer les joueurs à gauche et à droite en tournant la tête.
Mais c'est vrai que souvent ce genre d'innovation technologique passe par le sport. Le sport est l'un des vecteurs, on s'en souvient avec la
HD. Ouais, le sport en chambre aussi, hein.
Ouais, c'est plutôt le sport en chambre en général.
D'ailleurs, il y a eu des stats, là, sur les annonces VR. Je crois que les recherches sur le porno VR ont augmenté de plus de 10 000%.
Bon, ça ne surprendra personne.
Voilà.
Bon,
merci Samsung.
Merci. Vive le sport.
À propos de Samsung, justement, ils sont en train de lancer un nouveau format de carte mémoire qui viserait à remplacer le micro SD, qui s'appelle l'UFS. Donc, c'est pas
les
FS.
Rien à voir avec le sujet précédent.
Voilà, c'est ça. Donc UFS, qui est un format beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable et beaucoup plus où on peut mettre beaucoup plus de données. Il y a beaucoup plus de capacités. Donc l'UFS qui arrive peut-être pour remplacer vos cartes micro SD. À un moment, le problème, c'est que pour le moment, il y a que Samsung. Hein. C'est le standard de Samsung, mais en même temps,
c'est comme Sony et sa mémoristique, quoi.
Ouais, avec la mémoristique.
Ouais, mais Samsung, ils ont quand même beaucoup de partenariats avec beaucoup de gens, et c'est vrai que le micro SD, il serait temps de passer à autre chose parce que le format SD a beaucoup évolué, mais il est quand même un peu vieux. Donc,
ouais. Et alors la carte, je sais pas si vous avez vu, elle ressemble à un requin.
Ah ouais, il y a une sorte de petit aileron.
Ouais,
tout à fait. Ouais. on parlait de code de la route. Il y a un service de bot. On parle beaucoup des bots depuis quelques temps. Vous connaissez le service de bot qui vous permet de ne pas payer vos contredanses?
Ah non.
Ah bah écoutez, c'est un truc qui a été créé à Londres il y a quelques. Ça fait des mois déjà, ça fait un bon moment, j'en avais entendu parler. Il a été lancé aux États-Unis, à New York, il y a peu de temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc, c'est un bot. Donc, il vous pose des questions et vous répondez par oui ou non, ou vous répondez simplement dans une interface de chat. Ça s'appelle Do Not Pay. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous pose des questions qui sont relatives à des réglementations du code de la route pour la circulation ou surtout pour le stationnement. Et donc, ça vous permet de contester de cette manière les contredanses qui vous ont été attribuées. Par exemple, il va vous dire est-ce que vous aviez un truc qui était pas bien visible, ou est-ce que vous aviez une urgence, ou est-ce que machin. Et ensuite, si vous dites ah bah là non, pas vraiment, tout était bien, tout était visible, non, j'avais pas vraiment d'urgence. Ah oui, mais là, le parking était un petit peu trop petit. Ok, donc je vous envoie un template, un modèle pour adresser votre réclamation, et voilà où vous pouvez l'envoyer, et voilà machin. Donc vous imprimez simplement le truc, vous ajoutez vos détails, et ensuite vous envoyez le truc, et vous pouvez, enfin d'après leurs statistiques, il y a de grandes chances pour que votre contredanse soit invalidée. Donc c'est un service, c'est marrant parce que ça fait rien d'illégal. Et au contraire,
non, mais
c'est même contient
la réglementation.
C'est ça. Voilà. Et ensuite, bah, vous envoyez le truc. Si c'est pas le cas, le truc, c'est que souvent sur les contredanses, personne s'emmerde à le faire. Donc, le système fonctionne sur des.
Bon courage en France.
Oui, bah, je sais pas. Hein, tu sais, à mon avis, ils sont pas tellement moins. À Londres ou à New York, je pense pas que la situation soit hyper différente. Hein, donc.
Bah à New York, ça dépend des conditions.
Ouais.
Vu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, malheureusement, ça rigole pas.
Donc voilà, un service, un bot. On se demande à quoi peuvent servir les bots. Et ça peut vous servir à ne pas payer les contredanses qui ne sont pas valides. Il y a sur le Reddit du Rendez-vous Tech, Axpulp, un nom tout à fait intéressant, nous a envoyé un lien vers un article qui m'a un petit peu interloqué. C'est un article qui détaille la lente déclinaison des, enfin le lent déclin des imprimantes 3D. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais en gros, la thèse de la personne qui l'a écrit, qui s'appelle John Brandon, c'est sur inc.com, inc.com. C'est en gros, il dit, il y a une sorte de bulle d'enthousiasme des enthousiastes sur la 3D, l'impression 3D, et en réalité, d'une part, ça n'a pas vraiment d'utilité, et ensuite, ça coûte trop cher. Ça coûte tout simplement mathématiquement, le matériau coûte trop cher et les machines coûtent trop cher. Donc, ça ne peut pas vraiment marcher et ça ne marchera pas, en tout cas dans les conditions actuelles. C'est pas qu'on est en train d'arriver vers une démocratisation du truc et que c'est un peu lent. Lui, il dit, à moins qu'il y ait un truc majeur qui change, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que j'irai pas jusqu'à souscrire entièrement à sa thèse, mais par contre c'est vrai que l'impression 3D, on en parlait énormément il y a un an et demi, deux ans. Bah aujourd'hui, mine de rien, on en parle quasiment plus du tout. Donc c'est à se demander s'il n'y a pas un fond de vrai dans ce qu'il est en train de dire, quoi.
Non.
Moi, je suis pas d'accord, mais.
D'accord.
Alors, moi, je suis à fond dedans. Si vous regardez mon Twitter, je pense que vous verrez énormément d'impressions 3D, réalisées ou de modélisation. Aujourd'hui, on a des petites sociétés qui montent des imprimantes 3D qu'on peut monter soi-même, acheter en kit ou prémontés qui sont aux alentours de 300 euros, 400 euros grand maximum. On est très loin des 2000, 2500 balles de certaines marques, tu vois. Et avec un matériau qui, quand tu utilises du PLA, donc qui est un dérivé d'amidon de maïs, qui reste quand même relativement peu onéreux. Alors après, c'est vrai qu'il y a différentes qualités. Il faut faire attention au matériel, à la matière première que tu achètes, mais voilà. Alors après, oui, pour l'instant, c'est long. Je pense que le plus dur, c'est ça, en fait, c'est que c'est long. Une impression, j'ai fait des choses pour le décor de Geek Inc. Ça m'a pris, 60 heures pour imprimer plusieurs pièces.
Les deux pistolets de Tracer, hein, pour ne pas les citer.
Deux pistolets de Tracer d'Overwatch.
Ah oui, voilà.
C'est vrai que c'est long, il faut prendre son mal en patience. C'est une techno qui est en devenir pour moi encore. Après, je pense qu'en fait, elle va changer. C'est la technologie va changer. Aujourd'hui, on est sur de la fusion de matières premières avec une disposition couche par couche. Il y a HP, par exemple, qui travaille sur quelque chose de similaire, mais en fait, de beaucoup plus rapide, avec un espèce de plateau qui balaye d'un coup et qui dépose toute la couche de matière première d'un seul coup, en fait, et qui vient poser les couches comme ça et qui divise le temps d'impression par 30 ou 40. Enfin, c'est un truc assez révolutionnaire. Et c'est plus des nouvelles technos qui vont arriver comme ça, des technos
pour toi, ça continue à évoluer, quoi. C'est
ouais, pour moi, en fait, on peut pas dire que c'est le déclin, parce que on est aux prémices. Et oui, aujourd'hui, Madame Michu, l'imprimante 3D, elle n'a pas besoin. Mais avec les technos qui vont arriver demain, nous, on doit bientôt recevoir aussi en septembre, je crois, une petite imprimante qui marche avec ton smartphone. Et en fait, ton smartphone, tu poses l'imprimante sur un smartphone et c'est lui qui la pilote, etc. derrière, avec un matériau qui est sous forme liquide. Et en fait, le plateau se soulève et se solidifie couche par couche. C'est pareil, c'est une nouvelle méthode qui est encore un petit peu plus précise. Il y a beaucoup de choses qui sortent là aussi à base de laser, etc., etc.
À évoluer, quoi.
On peut pas annoncer le déclin maintenant. Il sortirait ça dans 5 ans avec une techno qui est éprouvée, qu'on a des trucs de super qualité et effectivement ça prend pas. Il y a des choses qui prennent pas forcément. Il y a des fois des produits, des technos qui prennent pas. Mais là aujourd'hui, on peut pas tirer ses conclusions. Encore. Pour moi, c'est trop tôt.
Non, mais c'est juste le déclin de la hype. C'est tout, mais ça veut pas dire que le truc est en train de...
La communauté des makers est vraiment énorme, quoi. Et quand tu vois des boîtes comme Dagoma, pour pas les citer, qui est une boîte française, qui organise aujourd'hui, jusqu'au 13 juillet, du 9 au 13 juillet, ils ont organisé le BD Camp, donc qui est en fait un camp où ils sont où ils ont invité des gens de la communauté des makers à venir et à dire venez créer votre produit. On met tous nos designers, nos ingénieurs, etc. à votre dispo. Vous venez avec votre idée et on vous aide à la réaliser. Mmh. Et ils sont et voilà, là ils ont organisé le premier événement, il y a des photos qui circulent, ils sont assez nombreux, ils sont en train de travailler sur des trucs assez sympas et voilà, et tout ça ça va prendre de l'ampleur, les nouvelles technos vont arriver, etc. Donc bah, je suis pas d'accord avec le monsieur.
Je crois que Cédric l'a bien résumé, c'est peut-être la fin de la hype mais oui, ça continue à travailler tout. Derrière quoi.
Voilà.
Le Brésil a bloqué les fonds de Facebook parce qu'il voulait que WhatsApp livre des informations dont WhatsApp dit qu'ils ne l'ont pas. On sait que la société parente de WhatsApp, c'est Facebook. En fait, WhatsApp n'a pas livré les informations. En fait, ce sont des messages qui ont été envoyés sur leur service, mais qui sont chiffrés et qui, en plus, ne restent pas sur les serveurs, d'après WhatsApp. Donc, ils n'y ont pas accès. Et le Brésil, les tribunaux brésiliens ont exigé que WhatsApp livre ses informations dans une affaire de drogue, si je ne m'abuse. Et ils continuent, WhatsApp peut rien faire, d'après eux, encore une fois. Le Brésil continue à jouer dur. C'est peut-être qu'il y a d'autres motivations derrière, mais en tout cas, ils ont bloqué l'argent de Facebook. Entre-temps, Facebook continue à essayer d'aller vers le chiffrement au sein de Facebook lui-même, puisqu'il y a une option, c'est un opt-in, hein, mais une option qui est disponible, donc il faut l'activer si on la veut, mais qui chiffre entièrement les messages dans Messenger. Donc, c'est du chiffrement qui continue à être de plus en plus prévalent dans la technologie en général. À côté de ça, Google est en train de tester des méthodes de chiffrement qui résisteraient aux ordinateurs quantiques. On sait que la technologie quantique pourrait à terme complètement détruire le chiffrement avec des technologies qui permettraient de déchiffrer facilement même les chiffrements les plus puissants qu'on a aujourd'hui. Et là, Google, bien sûr, c'est pas un truc qui va être utile tout de suite, mais il prévoit sur le long terme, dans les 5-10 prochaines années, il commence déjà à mettre en place des technologies, ça s'appelle Ring, LWE, donc des technologies qui résistent aux attaques quantiques. Donc on voit que ça commence à être à travailler dans ce domaine aussi, et c'est plutôt une bonne chose, je dirais. On a eu cette histoire où Manuel Valls a laissé son téléphone et il y aurait eu des comportements bizarres. Les comportements bizarres, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais c'est le téléphone qui s'est éteint. En fait, il l'aurait laissé aux autorités israéliennes lors d'une visite en Israël quand il devait rentrer quelque part. Son téléphone sécurisé a été laissé dans les mains d'une puissance étrangère, ce qui est... Alors en même temps, c'est compliqué, hein. T'es Manuel Valls et puis on te dit « Désolé, les téléphones sont pas autorisés dans cette pièce. » Quand tu dois rencontrer des personnalités publiques d'une puissance étrangère, tu dis quoi? Tu dis ah bah non, moi je prends mon téléphone avec moi. Enfin, je crois que la meilleure solution, ça aurait quand même été de donner le téléphone à un agent français qui serait pas entré dans la pièce. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on sait pas exactement si ça a été piraté ou s'il y a eu une tentative de piratage. Évidemment, officiellement, on ne s'espionne pas entre alliés, mais je pense que c'est la dernière fois qu'on entendra parler de ça et que désormais, il y aura un protocole qui sera mis en place pour ce genre de choses. Je vais au bout de cette mini-liste et puis vous me direz ensuite si vous... ce que vous pensez de tout ça. Notmika sur le Reddit nous a fait passer un sujet selon lequel le Parlement bulgare a fait adopter une loi qui impose à tous les programmes utilisés par le gouvernement d'être open source. Ce qui, à mon sens, c'est pas forcément une mauvaise chose. On a des alternatives qui peuvent être bonnes en open source. Et le fait que le gouvernement utilise des logiciels dont on puisse voir comment ils sont faits et s'assurer qu'il n'y a pas de trucs un peu bizarres qui se passent à l'intérieur, c'est plutôt une bonne chose. En même temps, ensuite, la question de être en adéquation avec le reste de la société, c'est important aussi, mais je suis sûr qu'il y aurait plus d'efforts qui pourraient être faits en faveur de l'open source dans les gouvernements. Il y a une directive qui est discutée sur l'utilisation du cloud souverain. c'est-à-dire que les collectivités locales devraient utiliser le cloud souverain, c'est-à-dire des services de stockage qui ne soient hébergés qu'en France, ce qui met immédiatement hors jeu des services comme Google, Microsoft, ouais, Apple, etc., Dropbox. Donc là, c'est, on est un petit peu, ou même Amazon, oui, on est un petit peu dans un domaine qui est pas hyper réaliste, je dirais, par rapport aux autres choses dont on a discuté. J'ai une autre série après, mais déjà là, ça fait beaucoup entre le chiffrement quantique, le téléphone de Valls et l'open source, etc. Si vous avez des petits commentaires à faire là-dessus, allez-y.
Bah, sur le chiffrement, chiffrement quantique, bon, ok.
Enfin, l'informatique quantique qui pourrait briser le chiffrement traditionnel, hein, c'est ça.
Je voudrais pas dire, mais aujourd'hui on a quand même déjà des outils qui permettent de briser le chiffrement de manière assez efficace. Alors ça peut être parfois très 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 long.
C'est ça le problème. Alors c'est bien que tu dises ça parce que ça me permet de préciser la chose. La différence, c'est que l'informatique quantique pourrait potentiellement permettre de briser tellement vite que ça annulerait l'idée de chiffrement. Tu vois, c'est que n'importe quel message chiffré pourrait être déchiffré tellement vite que énormément d'organisations, dans un premier temps, et puis n'importe qui, dans un deuxième temps, pourraient tout déchiffrer facilement. Et c'est ça le problème, c'est que ça créerait un monde où il n'y a plus de chiffrement, vraiment. C'est pas juste que on pourrait déchiffrer les trucs qu'on veut déchiffrer rapidement, c'est que tout pourrait être déchiffré hyper vite. Donc
oui, c'est ça. Parce que aujourd'hui
c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser.
On a quand même des systèmes à base de Rainbow Tables, etc., qui permettent de déchiffrer quand même relativement vite. Après, c'est vrai que sur des mots de passe très complexes, du coup, on n'arrive pas souvent à déchiffrer avant que l'utilisateur ait procédé à son changement de mot de passe, ce qui fait qu'on assure quand même une certaine sécurité. Là, avec l'informatique quantique, effectivement, s'il faut 3 millisecondes pour déchiffrer un mot de passe de 40 caractères, ça va falloir trouver des moyens, effectivement, pour protéger tout ça.
Ouais. Cédric, commentaire où on enchaîne avec Molotov TV, non ?
Non, les collectivités locales et le cloud souverain, hein, évidemment.
Ouais, ça t'inspire quelque chose.
Ouais, ça m'inspire le beau fiasco de c'était CloudWatt, c'est ça, le cloud français, qui a englouti des millions d'euros pour un résultat qui est complètement nul.
Alors là, je partage pas du tout ton avis sur CloudWatt.
Non, mais enfin, qui l'utilise?
Mais CloudWatt, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Enfin, ça a été racheté par.
Expliquez ce que c'est quand même.
C'est un système de cloud, un peu comme le fait OVH ou Azure, etc. Mais à la base, c'était juste de l'hébergement cloud. Maintenant, en fait, on est capable de créer des machines virtuelles dans CloudWatt et avec un système qui est relativement efficace. Des API qui permettent de créer des VM à la volée, etc., etc. Donc ils ont quand même beaucoup progressé. Les débuts ont été très houleux et
ouais,
on voyait pas trop où ils voulaient aller.
Bizarrement, ils ont progressé en un an quand en gros commençait à poindre le bout d'un scandale sur le fait qu'ils ont reçu énormément d'argent de nos impôts, hein. Enfin, le gouvernement a donné des aides en veux-tu en voilà, et que finalement il se passait pas grand-chose, tu vois. Il y a eu des changements de à la tête de CloudWatt pour justement dire oula, ça sent mauvais. Essayons de rattraper la chose. Donc ils ont une petite rallonge en plus parce qu'évidemment les choses ne se font pas sans argent. Et pour un résultat, enfin, je veux dire, les mecs ils sont juste en retard, quoi. C'est
bon, mais alors. Alors, je vais là encore faire un petit peu me faire l'avocat du diable, mais ok, c'est pas parfait, mais est-ce qu'il faut pas aussi qu'on ait quelque part des trucs comme je pense à OVH qui est une société entièrement privée, mais tu vois des sociétés, mais même OVH n'a pas de cloud vraiment, enfin c'est compliqué pour eux de faire un truc souverain, quoi. Ils vont pas mettre leur serveur uniquement en France, mais l'idée d'avoir des serveurs qui soient hébergés localement, que ce soit en France ou ailleurs, l'idée qu'on ait des acteurs dans ce domaine qui soient nationaux, est-ce que c'est pas peut-être, je dis pas qu'il faut que ça et qu'il faut absolument qu'on en ait, mais est-ce que c'est pas une bonne idée de travailler là-dessus parce que pour avoir une alternative, quoi, pour avoir la possibilité.
Je dis pas, mais c'est juste la façon de faire. C'est-à-dire que ça part toujours d'une décision politique de gens qui comprennent pas toujours forcément comment ça marche. Et franchement, ça a failli être une catastrophe. Et c'est les mêmes qui après vont t'expliquer qu'il faut refaire le clavier pour un clavier français, qu'il faut un France OS, qu'il faut...
Non, mais tu mélanges un peu tout là, Cédric.
C'est juste la façon de faire à la française, quoi. Parfois, je me dis, il y a des... En fait, la décision politique prévaut sur la façon de faire les choses intelligemment, en fait. Voilà, c'est juste que... Bon, après, je comprends que les collectivités, le gouvernement et tout ça se protègent de l'espionnage industriel, de l'espionnage tout court d'ailleurs, en utilisant un cloud souverain. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est plus la façon... Enfin,
sauf que c'est pas vraiment faisable, malheureusement.
Voilà, mais c'est plus le chemin pour arriver à ça, en fait, qui aujourd'hui, moi, me pose problème. Après, j'ai rien contre le principe, mais voilà.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution simple pour arriver à un truc comme ça. On se rend compte que ça serait pas mal d'avoir une solution nationale, souveraine, locale, physiquement, quoi. Mais comment y arriver? C'est pas facile, quoi. Alors, il y a quelques sociétés qui arrivent à faire des trucs intéressants comme OVH, qui est une société française, mais même eux, ils vont pas mettre tous leurs serveurs en France, ça n'aurait pas de sens pour le développement du truc. D'ailleurs, ouais.
Gandhi ouais. aussi, hein. Gandhi, c'est pareil, hein. Ils ont ouvert un data center aux US, enfin.
Et même d'ailleurs même une société, mais au moins, si tu vois, la société est française entre guillemets, c'est ce qu'on peut se dire. Mais en même temps, même des sociétés américaines, enfin toutes les sociétés américaines se battent justement pour que l'autorité américaine n'ait pas de pouvoir sur leurs infrastructures qui sont à l'étranger. Donc ils ont les mêmes problèmes, et le fait que ça soit une société entre guillemets souveraine américaine, ça veut pas dire que le gouvernement américain peut faire ce qu'il veut avec la société en question, et c'est normal. Nous, on voudrait pas que mes données qui sont quelque part, alors c'est un petit peu plus entre guillemets risqué si c'est une société américaine, mais en même temps, si c'est une succursale française avec des serveurs en France ou en Irlande ou Dieu sait où, bah j'ai pas envie que juste avec un mandat, le gouvernement américain puisse obtenir mes données à moi, qui n'ai rien à voir avec le gouvernement américain, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que je crois que le problème, c'est pas tant la manière dont on s'y prend, encore que je suis sur le fond quand même. J'ai l'impression que souvent on a une approche plutôt top-down, qui est le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs, ça n'a aucune importance à ce niveau-là, c'est plus une question française, va dire il faudrait qu'on fasse ça, et du coup on essaye d'y aller, mais souvent les résultats sont pas concluants, quoi. Donc,
alors c'est où le chemin pour arriver à un résultat concluant est pas.
Ouais. Bah, peut-être que c'est encore une question de génération, quoi, et que le jour où il y aura plein de gens qui ont écouté le rendez-vous tech, qui comprennent pas tout, mais qui comprennent les enjeux, les tenants et les aboutissants, et ben le jour où tous ces gens-là seront à des positions de responsabilité et de pouvoir, et ben les choses iront mieux. Et je reviens à ma question de podcast d'utilité publique dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, exactement. Je suis pas contre un cloud souverain, tu vois, c'est pas.
Ouais. Molotov.tv, c'est live depuis ce matin. Je sais pas si vous avez eu l'occasion.
Ça, c'est franco-français.
Ouais.
Alors, moi, j'ai participé à la bêta.
Ouais, alors, qu'est-ce que t'en penses?
Et depuis ce matin, je l'ai installé du coup sur mon Apple TV et mon iPad, puisqu'on peut. Et bon, je l'ai sur mon Mac, mais on peut pas l'installer ailleurs pour le moment. Apple s'est signé une belle exclusivité d'ailleurs, hein. Puisque normalement c'est dispo aussi sur Android, sur les télés Samsung, les télés LG et tout ça, mais en fait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une exclusivité. Alors la durée n'est pas précisée, mais je pense que ça va être un bon petit mois, je pense, ou au moins jusqu'en septembre. Une petite exclusivité qu'Apple s'est payée. Ils ont même fait une page dédiée à Molotov TV sur le site d'Apple, et ça c'est plutôt rare. Pour le souligner.
C'est quoi exactement ce truc?
Alors c'est quoi le principe?
La télé,
c'est pas la révolution. D'ailleurs, je déteste le nom Molotov TV. Bon, je pense qu'il y avait une vanne avec la TNT, tu vois. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir... Alors, il y a une offre payante, une offre gratuite. Je vais parler d'abord de l'offre gratuite. L'idée, c'est d'avoir sa télé en live, peu importe le device. Donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas... qui a une box qui fait que Internet à la maison, mais a un Apple TV, a la possibilité d'avoir la télé directement sur l'Apple TV, par exemple.
C'est toutes les chaînes de la TNT ou...
Toutes les chaînes de la TNT sur l'offre gratuite, plus No Life. Et je sais plus quelle autre chaîne. Il y a quelques chaînes en plus, en fait, par rapport à la TNT. tous les replays de ces chaînes-là avec les mêmes contraintes que les replays classiques, c'est-à-dire c'est 7 jours ou 15 jours de replay en SD pour l'offre gratuite. Alors des fois tu as de la HD, mais en gros si le service est saturé, il se réserve le droit de baisser ta qualité si t'es gratuit. Il y a pas de publicité pour le moment, en tout cas j'en ai vu nulle part, hormis la publicité qui est diffusée en direct évidemment, mais dans l'app elle-même il y a pas de publicité. Donc voilà. Ensuite il y a des options qu'on retrouve dessus. Par exemple il y a le time shifting, c'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que je peux mettre en pause une émission ou je peux la reprendre depuis le début. Par exemple, je me connecte, je tombe sur un documentaire, je me dis « Ah, il est cool, ah j'aimerais bien voir le début. » Ben, je fais retour arrière et c'est au début. Bon, ok. Ça, ça marche, mais pas sur les chaînes du groupe TF1 et M6, parce qu'ils n'ont pas signé d'accord pour ça. Sinon, sur toutes les autres, ça fonctionne. Et du coup, je me suis regardé un petit reportage sur le nord-est des États-Unis qui était très sympa, sur France 5. Je ne me souviens plus le nom, mais je me suis regardé ça hier et c'était vraiment cool. Ça marche très très bien, c'est hyper fluide et tout. Les options payantes, il y en a une à 3,99€, mais qui bizarrement n'est pas disponible encore sur le store. Il y a que celle à 9€ qui est dispo, qui elle en gros t'offre la possibilité de bookmarker des émissions. En gros, c'est de les sauvegarder dans un espèce de magnétoscope cloud. Les émissions à venir ou passées, c'est-à-dire que celles qui sont dans le replay, tu dis « Ah c'est cool, mais elle va disparaître dans 2 jours, bah, je la bookmark ». Et en gros, si elle dure 3 heures, ben, ça te mange ton quota de, ben, par exemple, 30 heures si tu as l'offre à 3€ et quelques. Et tu peux le regarder. Dès que tu la débookmarques, tu récupères ton quota de 30 heures, hein, évidemment.
Ah, ça, c'est vraiment une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité intéressante.
Ça reste à l'infini. Et tu as la HD. Et ensuite, pour 9,99€ par mois, tu as droit à 4 postes en simultané. Donc, si par exemple, tu as plusieurs télés dans la maison et que vous êtes à plusieurs sur Molotov, il faut utiliser cette option-là. La HD garantie. Donc ça c'est plutôt cool, et 100 heures de replay. Et ensuite, si vous voulez plus d'heures de bookmark, si vous voulez plus d'heures de bookmark, il faut payer, je crois que c'est 3,99€ pour 100 heures supplémentaires, et ainsi de suite. C'est alors toutes les options sont pas encore activées, hein, le service est lancé aujourd'hui. À noter quand même que le lobbying a dû fonctionner à plein pot parce que l'enregistrement cloud était complètement interdit, mais une loi est passé le 29 juin autorisant justement cette pratique, bizarrement. Par contre, actuellement dans l'application, lorsque vous voulez bookmarker pour garder un contenu, il vous dit « La loi est passée le 29, il faut attendre l'application de la loi pour pouvoir activer l'option. »
Exactement. Malin.
Donc aujourd'hui, si vous cliquez dessus, alors que ça fonctionnait très bien ce week-end, aujourd'hui ça ne marche plus, le jour du lancement officiel.
Ouais, officiel, ouais.
Voilà, et en fait, ils espéraient que la loi soit
passe au journal officiel
officiel dans le délai. Bon, sachant qu'il y a ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 mois avant que la loi passe, mais ils font un forcing de ouf, l'ESCUR et les autres, ouais, pour que ça passe avant. En l'état actuel, vous pouvez très bien installer le service. Alors attention, c'est géobloqué. Donc n'essayez pas ça en dehors de nos frontières, sachant qu'en plus, ils vont faire la chasse au VPN. Votre compte peut être clôturé si vous utilisez un VPN.
D'accord.
Donc, je peux utiliser un VPN, mais dans l'autre sens. Mais
voilà. Mais tu vois, je parle pour Patrick, par exemple, qui est très loin dans le nord où on dit plus pain au chocolat ou chocolatine. Eh bien, le conseil, c'est de pas l'utiliser.
Après, d'accord, c'est super chouette, tu vois, parce que moi, par exemple, pour l'instant, je sais pas s'il est prévu sur Android TV.
Écoute, ils ont parlé d'Android, tablette, mobile, y a pas de raison que ce soit pas sur Android TV, hein.
Voilà, mais après, parce
et
que
les
moi,
télé
après,
Samsung vont être compatibles et les télé LG aussi, donc.
Clairement, quand tu vois que Orange ne daigne pas te mettre l'application, par exemple, pour que tu aies la télé sur ce type de box dans la chambre, etc.
Ah, voilà, exactement. Là, pour les télé secondaires, c'est une tuerie.
Pour la télé secondaire, c'est juste génial, quoi. Donc, voilà. Moi, je.
Et alors, il y a un moteur de recommandation qui va se mettre à jour. La façon de présenter les chaînes aussi est différente. Ils ont plus accès contenu que chaînes de télé. Ça, c'est assez déroutant la première fois parce que quand tu fais afficher la liste des chaînes, en fait, ils t'affichent la liste des programmes. Ils ont fait une vignette pour chaque programme et tu vois la liste des vignettes et l'icône en tout petit en bas. L'icône de la chaîne de télé. Donc au début t'es là, tu te dis attends c'est quoi ça, je veux regarder le journal sur CNN, mais c'est quoi cette icône?
Et l'extended c'est pas plus mal en fait parce que c'est pas plus mal finalement, parce que c'est vrai que aujourd'hui, enfin moi qui regarde pas la télé, je m'intéresse plus au programme, sur quelle chaîne ça passe je m'en fous un peu, je cherche un programme spécifique, donc c'est pas mal quoi. Bah au final j'ai l'impression que cette histoire de Molotov TV c'est un peu C'est beaucoup. On s'en moquait un petit peu gentiment en se disant ouais, ouais, vas-y, révolutionne la télé, dynamite la télé, je sais pas quoi. Bon, Au final, j'ai l'impression que c'est la bonne approche. Si la télé telle qu'on la conçoit traditionnellement reste importante, et pour énormément de gens c'est le cas, ça a l'air d'être la bonne approche pour amener la télé traditionnelle dans le monde d'aujourd'hui.
En fait, pour moi, ça change rien. Parce que, ça change rien. C'est comme quand Apple annonce un nouveau truc et on dit ouais, c'est pas une révolution, ils ont volé des idées à droite à gauche, ils ont tout mis ensemble. C'est exactement ça, Molotov TV. C'est-à-dire que vous avez le replay dedans, comme Free l'a fait avec une appli replay réunifiée. T'as la télé live comme tu peux la trouver dans plein d'endroits. En gros, dans une seule app, tu retrouves tout. Ils ont rajouté le bookmark qui d'ailleurs était, je crois, il y avait un soft qui était sorti il y a pas longtemps et qui s'était fait vite défoncer parce qu'ils utilisaient ce principe de sauvegarde cloud qui était du coup hors la loi et ils se sont fait découper en morceaux. Mais en gros, ils ont regroupé c'est l'état de l'art de ce que fait de la façon de consommer la télévision aujourd'hui. On peut pas faire mieux que ça.
Je la trouve pas sur iPhone, par contre.
Normal, elle est pas encore dispo. Ils commencent tranquillement, je pense, pour la montée en charge avec iPad, Apple TV, et ensuite ils vont débloquer les iPhones, puis ensuite le reste parce que les serveurs ont intérêt à être assez, sacrément costauds. C'est hyper réactif, hein. C'est hallucinant, hein. J'ai rencontré aucun problème, ça marche hyper bien. Et tu vois, moi je suis dans un cas où j'ai une box, internet, qui est très loin de ma télévision. Donc du coup, je ne peux pas l'utiliser pour regarder ma télévision. Mais j'ai une Apple TV sous ma télé. Ben, go for it. Hein. On va débrancher le tuner TNT, on va passer tout par l'Apple TV. Hein.
Bon, voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, effectivement. Donc, Molotov TV...
À tester, vous pouvez tester.
Écoute, là, je viens de lancer la petite maison dans la prairie, c'est instantané. Hein.
Ah, c'est ultra rapide.
Surtout, pour la petite maison dans la prairie, c'est important, quoi.
Voilà.
Bon,
surtout la HD pour une série qui a 40 ans.
C'est ça. Bon, merci les gars. Je pense que ça nous a fait un bon petit épisode. C'était plutôt sympa. On a parlé de beaucoup de choses importantes et de choses marrantes. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents dans le Rendez-vous Tech.
Merci à toi pour l'invitation.
Mais de rien. Est-ce que vous voulez dire justement aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver s'ils en veulent plus, toujours plus?
Ils peuvent nous retrouver sur Geeking, Geeking Beats, donc pour Stéphane et moi, et puis voilà, Geeking tout court. Sur Twitter, moi c'est @CédricBonnet, et toi c'est LB Stéphane. C'est ça?
Oui, c'est ça. C'est @LB Stéphane. Je suis désolé, j'ai mon fils qui est en train de me faire un bisou pendant ce temps-là. Voilà.
Pardon. Et tu as un autre podcast, toi, mais plus sportif, plus musclé.
Ouais, j'en avais déjà parlé une fois, et d'ailleurs, je tenais à te remercier, Patrick, parce que ça m'avait ramené aussi pas mal d'auditeurs cette fois-là. Des gens qui avaient découvert et qui me disaient mais je suis fan de rugby, il faut que j'aille dans le Rendez-vous Tech pour découvrir qu'il y a un podcast sur le rugby. Voilà. J'ai un autre podcast qui s'appelle Tic Tac. Que vous retrouvez sur MixLR en live tous les mercredis ou jeudi soir, ça dépend des fois. Et puis on a une page Facebook, un compte Twitter @tick_, donc c'est tiré du bas. Si n'hésitez pas à venir. On est en pause en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité rugby et puis le championnat va reprendre qu'au mois d'août. Mais n'hésitez pas à écouter les épisodes déjà.
Et puis à vous abonner pour être présent quand ça reprend.
Exactement. Sur SoundCloud, il y a tous les replays.
Non, mais ces podcasts, tu es sur iTunes et tout,
iTunes et SoundCloud.
Très bien.
On attend avec impatience les podcasts Android en France.
Ouais, bien sûr.
Petit message personnel à nos amis chez Google.
J'espère que ça va arriver bientôt.
Tu sais, les premiers articles qui disent Molotov, la plateforme qui veut ubériser la télévision.
Allez, c'est parti.
Bon, en attendant, pour en savoir plus sur moi-même, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, n'oubliez pas. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi le rendez-vous jeu et d'autres émissions sympathiques qui vous plairont, je pense. Vous pouvez également commenter cet épisode toujours sur frenchspin.fr. Vous allez dans l'article de l'émission et vous laissez des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit, quand c'était bête, quand c'était moins bête, quand c'était marrant ou moins marrant. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous !